RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Depuis plusieurs semaines déjà, nos maisons, appartements et rues de nos villes se sont parées de décorations de Noël. Alors, outre la course aux cadeaux et aux sapins, ce temps est aussi marqué par les histoires et les contes de Noël. Le magazine Panorama en a fait une tradition. Chaque année, dans son numéro de décembre, le magazine publie un conte inédit commandé à un écrivain. Cette année, c'est un conte nourri de culture libanaise que vous pouvez découvrir. Vers soufflé en est le titre. Je vous propose de l'écouter tout de suite et on se retrouvera tout de suite après le conte avec nos invités et notamment l'auteur Sharif Majdalani et puis Marie-Christine Vidal, rédactrice en chef de Panorama, et Wadi Chouéri, coach qui a notamment été le conteur pour RCF. On écoute tout de suite Vers soufflé.
Vers soufflé. Un conte de Noël écrit par Sharif Majdalani, lu par Wadi Chouéri et mixé par Pierre-Henri Paget.
Tout le monde dans le quartier connaît Abou Antoun, l'ancien épicier. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je me souviens qu'on m'envoyait acheter du pain chez Abou Antoun, du beurre chez Abou Antoun, des batteries, du dentifrice, du fromage chez Abou Antoun. Et c'est chez Abou Antoun que j'ai de tout temps acheté mes friandises. Sa boutique était aussi nécessaire et indubitable que le ciel, les murs et les fenêtres du quartier. Que le fait d'avoir deux parents, trois sœurs plus jeunes, d'aller à l'école en car et de revenir tous les jours vers 16h. Pourtant, je ne l'aimais pas beaucoup, Abou Antoun. J'entendais parfois mon père dire qu'il était avare, et moi, je le trouvais grincheux. Je crois que c'était parce qu'il n'aimait pas les enfants. Il n'en avait pas. Il était célibataire et vivait seul dans sa maison, au-dessus de son commerce. Nous étions pourtant, les enfants, une part essentielle de sa clientèle. Ses rayons de bonbons, de biscuits et de chocolat couvraient un mur entier de son échoppe. Abou Antoun les rangeait dans des bocaux de formes diverses, curieuses, contournées, ludiques. C'est plus tard que nous avons tous réalisé que Abou Antoun avait une passion depuis sa plus tendre enfance. Il aimait le verre. Il vouait une intense admiration à cette matière fragile. Il aimait sa transparence, les couleurs qu'elle pouvait avoir, le jeu de lumière qu'elle rendait possible. Le miracle qui permet de transformer une pâte ductile en une chose solide que nous façonnons à notre guise était le sujet de toutes ses rêveries. Nous avons alors admis que c'était par attention pour ses bocaux qu'il refusait de nous laisser mettre la main dedans et d'y puiser nos confiseries préférées, nous chassant avec de grands gestes, comme s'il chassait des mouches, pour nous éloigner des précieux récipients qu'il saisissait ensuite lui-même avec soin avant d'en retirer les bonbons. Il utilisait aussi de très singuliers récipients pour la cannelle ou la coriandre, qu'il déversait soigneusement sur de grandes feuilles posées sur le plateau de sa vieille balance. Il raconta un jour à ma mère que certains de ces récipients étaient en verre soufflé, qu'il les apportait de tir et qu'il y mettait les épices les plus rares. Ma mère rit beaucoup parce qu'elle n'en comprenait pas comment Abou Antoun pouvait vendre des épices précieuses, safran ou curcuma. Comment un homme aussi dur que lui pouvait avoir de telles finesses? C'est plus tard aussi que j'ai compris pourquoi il y avait, sur les étagères les plus hautes et les plus inaccessibles de son magasin, d'étranges bouteilles aux cols allongés, comme ceux des femmes, aux bedaines arrondies, comme celles des notables, de minuscules dames jeunes, des fioles, des huilières miniatures, aux becs maniérés et des aiguillères qui ressemblaient à des danseuses du ventre. Il dit un jour à ma tante que c'était là qu'il mettait naguère l'huile et l'arac, qu'il vendait en détail avant l'industrialisation. Le seul qui était autorisé à toucher les bocaux de Abou Antoun, mais au grand déplaisir de ce dernier, qui n'osait protester, c'est le père Aboud. le religieux qui s'occupait de la cantine et des dispensaires de notre collège et qui nous donnait des cours de géographie. Il avait cette manie, devenue célèbre, d'entrer dans la boutique de Abrantoun, de longer le rayon des friandises, d'y plonger la main aux grandes dames de l'épicier en s'écriant « C'est pour mes pauvres !» Ce qui fait que pendant des années, Abrantoun n'a rien dit, laissant le religieux à la taille immense, en soutane noire, puiser dans ses chers récipients et sortir sans payer, puisque c'était pour ses pauvres. En fait, Abrantoun était persuadé que le père Aboud nous distribuait ensuite les bonbons, qu'il n'y avait pas de pauvres, mais que le prélat cherchait à se faire bien voir de nous, les enfants du quartier, qui étions aussi ses élèves, et cela le mettait en rogne. Sauf qu'à la vérité, le père Aboud ne puisait dans les confiseries, ni pour ses pauvres, ni pour nous, ses élèves habituels, mais pour lui seul. Quelques semaines avant l'explosion du port, Abrantoun ferma sa boutique. Cet événement spectaculaire ne prit de sens que plus tard, lorsque l'épicier bougon et avare déclara qu'il en avait assez de vendre des tomates, des chewing-gums et des boîtes de sardines. Il avait un projet. Il voulait rouvrir son échoppe, mais pour ne plus y proposer que du verre soufflé, des objets finement travaillés, torsadés, de couleurs, fragiles mais admirables. Il rêvait d'une transmutation presque alchimique de son épicerie, d'en faire soudain un commerce d'objets délicats, où l'on mesure qu'avec attention et où chaque geste doit être mesuré, où le regard ne tombe que sur des objets qui arrêtent la lumière, la suspendent ou la reflètent. Pour cela, il avait gardé sa vieille collection, celle qui trônait sur les plus hautes étagères de son magasin de produits ménagers et de boîtes de conserve. Il liquida tout le reste et disparut plusieurs jours. Il se rendit à Tyr, ou plus exactement à Sarafand, où continuait à exister et travailler le dernier souffleur de verre du Liban, héritier du vieux savoir-faire de l'antique cité phénicienne. Abrantoun revint de là-bas dans sa vieille camionnette chargée de caisses où étaient délicatement rangées des fioles, des huilières, des aiguillères, mais aussi des tasses, des vases et des assiettes aux fines couleurs bleues, vertes, blanches ou rouges, suprême délicatesse. Hélas, la transmutation d'une petite épicerie désuète de quartier en quelque chose qui aurait ressemblé à l'intérieur d'un diamant n'eut pas lieu. Abrantoun revint de Tyr, laissant son trésor dans la fourgonnette et cette dernière dans le garage, qui jouxtait sa boutique fermée. Le temps de s'en occuper, les jours suivants, au terme d'un réaménagement de son ancien local qu'il avait démarré à l'abri des regards. Le surlendemain, l'explosion du port de Beyrouth emporta tout, notre maison, celle de nos voisins et celle de Abrantoun. Tous les commerces du quartier furent ravagés. Du local fermé de Abrantoun, à moitié vide et en voie de devenir un magasin de verre soufflé, il ne resta rien. Tous les bocaux, les fioles et les fines bouteilles anciennes qui étaient demeurées furent réduits en miettes, et leurs restes mêlés aux tonnes de bris de verre qui craquèrent sous nos pieds pendant des semaines. La porte du garage fut éventrée. À l'intérieur, la camionnette perdit tous ses pneus et s'affaissa sur elle-même. Quant à la petite cargaison qu'elle contenait, nul ne s'en occupa. Abrantoun était dans sa cuisine au moment du drame. Il raconta que le souffle le projeta contre son réfrigérateur et lui démit l'épaule. Tout ce qu'il y avait dans sa maison fut emporté comme dans un tourbillon et retomba autour de lui en morceaux. Un canapé se dressa et se fracassa contre un mur. Une porte partit comme une fusée et se ficha dans une armoire à glace en la défonçant. Lorsque l'affreux vacarme qui accompagna cette horreur fut passé, il comprit, à travers la poussière qui tardait à retomber, que la façade de sa maison n'existait plus. Les pierres de sable jonchaient ce qui avait été son salon et, de la rue, parvenaient les hurlements, les cris. Il vit le sang lui couler le long du bras. Il y avait des vitres brisées partout et la petite collection particulière d'aiguillères et de flacons, la plus belle et qu'il conservait chez lui, percutée par la porte qui était venue se ficher dans la petite vitrine, n'était plus que poudre au milieu des décombres et de la poussière. Abou Antoun se soignait tout seul. Il connaissait une vieille technique de médecine dite arabe, grâce à laquelle il replaça son épaule en se mettant une serviette entre les dents pour ne pas hurler. Le sang n'était que le résultat d'égratignures dues aux chutes de vitres. Dans l'immense désordre qui régna durant la soirée puis la nuit, on l'oublia, puis au matin, les voisins vinrent s'enquérir de lui. Mais il refusa toute aide. Il ne voulut pas sortir de chez lui. Pendant des semaines, il refusa que des équipes de secours, que les jeunes gens délégués par des associations, que des architectes bénévoles, que quiconque entrât dans les décombres de sa maison. Au bout d'un mois, on lui expliqua que la demeure n'était peut-être plus très solide et qu'il fallait une expertise. Il laissa venir les ingénieurs, puis accepta en marmonnant d'autoriser des équipes de bénévoles aidées par une petite grue à enlever les pierres de sable taillées encore entassées au milieu de ce qui avait été son salon. Abou Antoun avait réhabilité la porte d'entrée de la maison. Mais sa façade était béante et ouvrait littéralement sur la rue. Il restait un morceau d'arc et une colonne, résidu du dessin des vieilles fenêtres des demeures beyrouthines. Il les utilisa pour tendre un grand drap et vécut ainsi durant les mois qui suivirent, comme s'il était dans une tente. Le caractère désagréable d'Abou Antoun éloignait ceux qui voulaient l'aider, s'enquérir de sa santé ou venir lui tenir compagnie. On savait tous qu'il avait une sœur à la montagne, mais elle ne se manifesta pas après l'explosion. Sans doute était-elle très âgée. On disait aussi qu'il avait refusé l'aide des secours parce qu'il avait peur de se faire voler et qu'il refusait de partir parce qu'il avait des choses à cacher. Mais moi, je sentais qu'il était simplement désespéré. Comme par une sorte de méchanceté du sort, il avait fallu que l'un des symboles de dégâts laissés par l'explosion fût le verre brisé. Les vitres emportées par le souffle, dont l'effondrement partout, les éclats ou les bris causèrent d'innombrables blessures fatales et dont le crissement sous les pas fut le cauchemar des habitants pendant des mois. Ce qui explique que, pas une seule fois, Abou Antoun ne voulut constater les dégâts ou évaluer ce qui restait de ses collections de fioles et d'huilières dans sa boutique. Il ne chercha même pas à mesurer dans son garage l'état de destruction de la cargaison rapportée de tir. Durant les mois qui suivirent, il ne reçut personne. Lorsque les voisins, qui étaient revenus dans leur maison restaurée, envoyaient leurs enfants lui porter quelques plats cuisinés, il les remerciait sèchement. On m'y dépêcha une fois, avec un ragoût de haricots. Il ne se montra guère plus aimable. Je confirmai que sa chambre avait été épargnée, qu'il avait réaménagé au mieux sa cuisine, et que le reste était comme après l'explosion, témoin fossile du moment du drame. Abou Antoun restait couché des heures entières, ou bien fumait dans sa cuisine. La seule personne qui vint chez lui un jour était le souffleur de verre de Sarafande, à qui le liait apparemment une vieille amitié. Aux alentours de Noël, on se demanda si Abou Antoun sortirait de chez lui, si, comme chaque année, il partirait dans sa camionnette et irait passer la fête avec sa sœur dans la montagne. L'avant-veille de Noël, au matin, il entreprit de défaire le rideau de fer contorsionné du garage et le jeta à l'intérieur, puis il fixa au véhicule quatre roues usagées, mais en bon état, qu'on lui livra dans la journée. Après quoi, sans même ouvrir et ausculter le moteur, mais en s'étant juste assuré qu'il démarrerait, sans avoir jeté un seul coup d'œil à l'arrière ni à la cargaison, dont il devait bien savoir qu'elle était en miettes, il monta chez lui. Le lendemain, la veille de la fête, en début de soirée, il partit presque machinalement, presque mécaniquement, pour l'unique rituel annuel qu'on lui connaissait. Abou Antoun Antoun sentit bien que son vieux véhicule brinque-ballait trop et qu'il grinçait atrocement à chaque changement de vitesse, mais il ne s'en soucia pas. Il n'entendait rien, sauf par moments un cliquetis à l'arrière, celui de bouteilles et de verres s'entrechoquant doucement au gré des vibrations du moteur. Il savait que ce bruit n'était pas possible, c'était ses rêves brisés qu'il entendait et qu'il transportait en lui comme il emportait les reliquats dans sa fourgonnette effroyablement poussiéreuse et couverte d'une couche de sable issue de l'effondrement de la ville. Durant le trajet, l'ambiance n'était nulle part à la fête, évidemment. Il n'y avait que peu de traces de joie, quelques guirlandes dans les vitrines, quelques sapins clignotant derrière les fenêtres, peu de choses, ce qui convenait à l'humeur de Abou Antoun. Lorsqu'il commença sa montée dans la montagne, la camionnette sembla de plus en plus poussive, mais elle ne le trahit pas jusqu'au sortir des derniers villages dans les hauteurs. Sa sœur habitait leur hameau natal, au bout d'une route toujours en mauvais état, longeant des gorges puis des sommets. Il avait beau connaître cette route par cœur, Abou Antoun n'en savait pas les ornières récentes. Il les contournait comme il pouvait, précédé par le faible faisceau de ses phares jaunâtres. Mais il ne vit pas un trou sournois dans lequel il tomba. La carlingue fit un bruit terrible et le moteur cala. Il s'évertua à le faire tousser pour qu'il redémarre en vain. Il mit pied à terre pour constater que la roue avant droite était au fond du trou et tordue. Dans la nuit, les montagnes l'entouraient silencieusement, couronnées par le formidable festoiement du ciel. Certaines étoiles, plus lumineuses que les autres, semblaient clignoter et lui faire signe. Il connaissait les lieux et savait qu'il ne pouvait à cet endroit trouver d'habitation ni d'aide. Il prit le cric et le petit diable qu'il avait posé à ses côtés pour tenter quelque chose en vain. Seul, il ne réussirait à rien. Il éteignit le moteur et, alors, dans le silence majestueux du monde, sous la liesse du ciel nocturne, il crut entendre des rires et même, à un moment, trois notes d'une sorte de flûte de pâtre, comme si quelqu'un s'était amusé à y souffler fugacement. Il haussa les épaules puis se pencha à nouveau sur la roue pour se redresser encore au constat de sa définitive impuissance. Les rires reprirent dans la nuit et aussi maintenant des sons de voix. Des voix légères, cristallines et joyeuses. Abou Antoun, dubitatif et sceptique, chercha du côté de la route devant lui, mais c'est du côté opposé, celui d'où il était arrivé, que soudain apparut un groupe d'enfants, 5 ou 6, qui s'arrêtèrent, stupéfaits, à la vue de la fourgonnette et de son chauffeur. Abou Antoun comprit très vite qu'il s'agissait de petits bédouins. Ils lui expliquèrent en riant dans leur langue très accentuée qu'ils étaient bergers et campaient pour l'hiver dans la région. Il les regardait d'un air distant et inquiet. L'un d'entre eux portait une cape en peau, comme les adultes, et un autre tenait le ney, le pipeau des bergers d'Orient. Ils lui proposèrent leur aide pour sortir la roue de l'ornière et l'appelaient « mon oncle », ce qui l'agaçait. Il bougonna qu'ils étaient trop petits pour pouvoir lui être utiles. Ils ne l'écoutèrent pas et commencèrent à se répartir la tâche, comme s'ils jouaient. Il voulut les chasser, comme il nous chassait de devant ses bocaux de bonbons, mais ils avaient déjà enfoncé le diable et le cric sous la roue pour les utiliser comme cale, poussé et hissé en criant et en rigolant. Il finit par leur prêter main forte, voyant que cela portait ses fruits, et bientôt, la camionnette se retrouva entièrement sur la chaussée. Mais la roue était abîmée. Ils proposèrent de la lui changer et voulurent ouvrir la porte arrière. Il s'emporta soudain, les gronda et voulut leur donner un peu d'argent pour les remercier et les voir déguerpir. Ils refusèrent. À ce moment, apparut un adulte qui jaillit de la nuit et les tensa en leur reprochant de traîner ainsi et d'inquiéter tout le monde. Mais c'est Abou Antoun cette fois qui prit leur défense. Le nouveau venu, qui portait une tenue longue, la rabaya, constata les problèmes mécaniques et proposa son aide à son tour. Abou Antoun accepta d'attendre que le bédouin, qui était aussi un berger, d'après ce qu'il raconta, repartit vers son campement pour rapporter de quoi réparer la roue abîmée. L'ancien boutiquier s'installa sur le siège de son véhicule, la portière ouverte, les pieds sur la chaussée, entouré des enfants, assis en tailleur sur la route devant lui ou appuyé à la carlingue. L'ombre imposante des montagnes leur tenait amicalement compagnie. Il leur demanda ce qu'ils faisaient dans le coin en pleine nuit. Ils lui racontèrent qu'ils avaient été visiter un nouveau-né et sa famille, membre de leur clan, dans un autre campement. Il leur dit que lui venait de Beyrouth. L'idée de la ville les émerveillait. Il essaya de les détromper et leur raconta l'explosion. Ils l'interrogèrent pour savoir s'il y était ce jour-là. Il répondit que oui et, poussé par il ne sut quelle étrange force, il leur dit qu'il allait leur montrer les dégâts que cela avait causés. Il quitta son siège et, pour la première fois, se trouva le courage d'aller vers l'arrière de sa fourgonnette où il entraîna ses nouveaux amis. Il ouvrit la portière, se préparant à supporter le spectacle des miettes de couleur, des morceaux de ses rêves et de sa passion gisant partout. Mais au lieu de ça, et après avoir forcé la portière qui résistait un peu, il découvrit que les cartons étaient toujours aussi bien emballés et que dedans, grâce à la solidité des empaquetages de son ami, l'artisan de Sarafande, toute la verrerie précieuse était encore intacte. Lorsque le berger revint avec un de ses parents et tout un arsenal de réparation de pneus, il vit les enfants de son clan assis en rond aux côtés du chauffeur de la camionnette et autour d'eux, sur le sol, dans l'herbe, entre leurs jambes et sur leurs genoux, sous la brillance formidable du ciel nocturne, des fioles délicates, des aiguillères, des hulières, des flasques et des tasses. Abouantoun, installé en tailleur lui aussi, expliquait comment souffler le verre et riait en racontant. Enfin.
Versoufflé, c'était le conte de Noël qui est publié dans le magazine Panorama de décembre et donc que nous venons de diffuser en partenariat donc sur RCF.
Grand angle, proposé par Faustine Fayette.
Alors on est encore un petit peu dans l'ambiance de ce conte qu'on vient d'entendre, ce conte qui se passe à Beyrouth, qui nous emmène un peu dans un autre lieu. Et puis pour en parler autour de moi aujourd'hui, Sharif Majdalani, donc qui est l'auteur. Bonjour.
Bonjour Faustine.
Vous êtes donc écrivain, vous êtes professeur de lettres à Beyrouth et vous avez donc écrit ce conte de Noël, Vers soufflé, qui est paru dans le numéro de décembre de Panorama. Vous êtes également l'auteur de Beyrouth 2020, journal d'un effondrement, qui est paru chez Actes Sud. Et vous avez reçu pour cela le prix spécial du jury Femina 2020. Et on va évoquer avec vous eh bien, tout le travail que vous avez réalisé autour de ce conte et puis comment vous est venue l'idée. Marie-Christine Vidal, bonjour.
Bonjour Faustine.
Vous êtes donc rédactrice en chef de Panorama et on va peut-être évoquer avec vous eh bien, les coulisses de ce conte et puis comment vous l'avez reçu, vous, en tant que rédactrice en chef. Wadi Chouari, bonjour.
Bonjour Faustine.
Vous êtes coach, notamment auprès de managers et de dirigeants d'entreprise. Et vous avez été le conteur, voilà, pour RCF de Vers soufflé. Et on va évoquer avec vous, eh bien, votre expérience peut-être de conteur, votre cœur de Libanais aussi qui a résonné en lisant ces lignes. Et puis, voilà, on va parler de tout ça. Alors, je vais peut-être d'abord m'adresser à Marie-Christine. Marie-Christine, pourquoi d'abord cette tradition un peu du conte de Noël dans Panorama qu'on découvre peut-être parfois avec un peu d'impatience pour les abonnés, de se dire qu'est-ce qui va sortir cette année ? Voilà, pourquoi cette tradition ?
Écoutez, parce que Panorama est un mensuel, donc on a 11 numéros par an, et c'est vrai qu'à l'approche de Noël, on a envie de faire un cadeau un peu particulier à nos lecteurs. Et ce cadeau, très naturellement, depuis 6-7 ans, l'idée est venue de proposer un conte, et un conte complètement inédit qu'on commande à un écrivain reconnu, à un romancier reconnu, à qui on propose ce petit exercice.
Et alors
pour en faire, oui, vraiment un cadeau qui est en plus qui offre un temps long, puisque c'est un conte qui est long et qui est illustré, vraiment pour eux, pour nos lecteurs.
Et alors pourquoi avoir choisi Sharif Majdalani pour votre conte de Noël de cette année ?
Ah, c'est le hasard. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le hasard. Parce qu'en fait, on s'est contacté avec Sharif, je pense, en juin ou juillet. Depuis les 7 ans qu'existe cette tradition, on a eu des auteurs très, j'allais dire, franco-français. Hein, Alexis Génie, Sylvie Germain, Timothée de Fombelle. On s'est un peu éloigné puisqu'on a eu aussi Eri De Luca, l'Italien. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant à cette année, je me disais, mais pourquoi pas, pourquoi Noël serait simplement les montagnes enneigées et nos petites églises de campagne, et pourquoi on n'irait pas chercher ailleurs? Donc j'ai pensé, dans ma tête, je me suis dit, je vais chercher un écrivain africain ou un écrivain du Moyen-Orient. Et puis, en réfléchissant au nom, j'ai pensé Amin Malouf, parce qu'Amin Malouf, voilà, grand écrivain libanais, je dis, bon, Amin Malouf, d'accord, mais est-ce que, d'abord, j'ai pas son numéro de téléphone, j'ai pas son mail, etc. Donc, réflexe, j'appelle une de mes consoeurs de la Croix, Sabine Audrury, qui s'occupe des livres à la Croix, et qui venait le jour même de me dire, j'aime beaucoup Panorama, si vous avez besoin d'un coup de main un jour, n'hésitez pas. Donc, pof. Voilà, la connexion s'est faite très vite. Je l'appelle, elle me dit « Ah, mais non, mais j'ai mieux qu'Amin Malouf. J'ai Sharif Majdalani. » Et alors, j'avoue que je ne connaissais pas Sharif, mais en discutant avec Sabine, je me suis dit que ce serait vraiment top si Sharif acceptait. Je lui envoie un mail et Sharif répond, je sais pas, dans l'heure qui suit ou le lendemain matin, acceptant tout, le délai, les conditions, etc. Donc voilà, voilà comment ça s'est fait. Et ça s'est fait donc bien avant l'explosion du 4 août.
Alors, du coup, je m'adresse à Sharif. Comment vous avez reçu cette demande ?
Mais la demande, je l'ai reçue avec beaucoup de plaisir, parce que c'est toujours, agréable de recevoir une commande, parce que ça nous force à sortir de notre routine, enfin de nos fantasmes, de nos hantises, de ce que l'on n'arrête pas de ressasser et de rebâcher dans nos textes. Donc du coup, quand il y a une commande, on est obligé de faire autre chose, quelque chose à quoi on n'a pas pensé d'emblée. Et là, évidemment, alors, un conte de Noël, j'aurais jamais pensé qu'on m'en prendrait un. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est idiot. Mais et là, j'étais très heureux effectivement de pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que j'ai répondu très vite que c'était d'accord.
Alors, Marie-Christine, vous aviez donné quelles étaient les consignes un peu que vous aviez données ?
Alors, comme chaque année à Panorama, les consignes sont les consignes d'un conte de Noël. Donc un conte de Noël, c'est une histoire qui se finit bien, dans laquelle on est dans l'émerveillement. Mais après, je pense que ce qui est très important, c'est que au-delà de ce cadre, le Panorama laisse la liberté à l'auteur de laisser aller sa plume et d'inventer une histoire. Donc la seule contrainte, c'est que fin août, je demande à l'auteur un tout petit synopsis, c'est-à-dire dans 4-5 lignes, de nous expliquer un petit peu l'histoire pour que l'illustrateur puisse commencer à travailler, puisque l'idée, c'est qu'on ait aussi une illustration originale. Et là, c'est un illustrateur qui a un nom libanais, Zavan Najar, mais qui est plutôt d'origine arménienne, mais qui a de la famille aussi au Liban. Enfin bref, voilà, c'est lui qui a illustré ce conte.
Alors, Sharif, est-ce que l'écriture a été facile ou est-ce que vous avez d'abord vous êtes creusé la tête en vous disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans un conte de Noël ?
On a toujours un moment de réflexion pour trouver, mais en fait, ce n'est jamais qu'un plaisir. En fait, quand on a à chercher une idée, une histoire à raconter, c'est toujours un bonheur parce qu'on a une immense liberté, on peut aller dans n'importe quel sens. Et ça, c'est toujours une grande joie. Mais alors la contrainte, en revanche, je ne sais pas si c'était effectivement sous-jacent, c'est moi qui l'ai compris comme ça, Marie-Christine ne l'a peut-être pas dit, mais je l'ai lu quelque peu, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu en arrière-plan, la trame des contes de Noël de Dickens, dans notamment le très célèbre conte dans lequel il y a un personnage du grincheux, un peu avare, désagréable, qui ne veut pas fêter Noël, et qui est finalement ramené à la vérité de Noël, etc., par les enfants. Alors je pensais qu'il fallait faire quelque chose dans ce goût-là. Moi j'aime bien aussi que c'est une contrainte, parce que prendre cette idée-là et en faire quelque chose de totalement différent, ça m'a beaucoup plu. Alors Marie-Christine n'en a pas parlé quand elle a présenté, mais moi il m'a semblé comprendre qu'il fallait à peu près faire ça. Alors, j'étais très heureux moi en fait. Et donc c'est de là que c'est parti. Dans cette écriture, dans l'écriture de ce conte, comme dans l'écriture du bouquin auquel vous avez fait allusion, comme dans toutes dans nos vies actuellement, il y a quelque chose qui s'est produit au beau milieu, c'est l'explosion du 4 août. Donc j'étais en train de réfléchir à un conte, et puis il y a eu l'explosion. Et là, je me suis dit, il faudra forcément tout tourner autour de ça. Et donc c'est pour cette raison qu'à un moment donné, l'idée du conte s'est infléchie vers ce qui est advenu, en fait.
Et oui, parce que du coup, vous avez dû changer un petit peu la trame. Vous aviez déjà un peu travaillé quelque chose ou ça n'avait pas vraiment commencé ?
Ça n'avait pas vraiment commencé, mais j'étais en train de réfléchir à trouver un personnage de grincheux. J'avais le piquet, j'avais très bizarrement le verre soufflé. Et c'est ça qui, aussi, moi, me rend un peu perplexe, parce que le verre soufflé, qui est le thème du livre, c'est le verre soufflé avec lequel on fabrique des récipients, etc., mais c'est aussi... Après, c'est devenu le verre qui a été soufflé dans la vitre, parce que Beyrouth a perdu je ne sais pas combien de centaines de milliers de tonnes de vitres qui ont été soufflées par l'explosion. Et là, évidemment, c'est comme si la chose se présentait d'elle-même, il fallait absolument continuer dans ce sens-là, mais le verre soufflé a soudain pris un autre sens.
Alors, Marie-Christine Vidal, quand vous avez reçu peut-être d'abord le synopsis et ensuite le conte, quelle a été votre réaction à la première lecture ?
Oui, alors moi je savais en fait que Sharif ferait allusion à l'explosion du 4 août parce que dès que j'ai su qu'il y avait une explosion au Liban, je me suis inquiétée pour lui. J'ai très vite lu dans Le Monde avait demandé à Sharif un petit témoignage sur la façon dont il avait vécu l'explosion. Donc je savais qu'il était vivant, qu'il y avait surtout des dégâts matériels autour de lui. Mais on s'est contacté par mail. D'abord je voulais avoir de ses nouvelles, etc. Et très vite il m'a dit qu'il songeait à faire démarrer son compte autour de cet événement. Et effectivement, je trouvais ça génial. Et c'est vrai qu'en en le lisant, je me suis dit que ce serait une très belle façon pour nous, Panorama, de rendre hommage au peuple libanais, de l'accompagner dans son combat pour la reconstruction. Et je me projetais déjà à Noël et je voyais bien, pour nos lecteurs, le fait d'être à travers ce conte, dans cette histoire qui est un peu une renaissance quand même, hein, sans spoiler la fin, c'est quand même un conte de Noël, et qui dit un petit peu le combat et le chemin que les Libanais doivent faire pour renaître après cette explosion et pour retrouver l'espoir.
Alors on va écouter un petit peu de musique qui va nous remettre dans cette ambiance libanaise. Et puis ensuite, restez avec nous parce que je voudrais maintenant interroger le conteur. Voilà, restez avec nous, vous êtes dans Grand Angle sur RCF.
Grand Angle, RCF.
C'était Ibrahim Malouf, Good Night Kiss, avec Mounir Hossein. Et on parle aujourd'hui d'un conte de Noël à la libanaise. Alors, Sharif, vous nous avez parlé donc de ce travail autour du conte de Noël, donc qui vient d'être publié dans le numéro de décembre de Panorama. Sharif Majdalani, donc vous êtes écrivain, et puis nous avons aussi autour de la table Marie-Christine Vidal, donc la rédactrice en chef de Panorama, et Wadi Chouiri qui est donc coach. Et vous avez notamment été le conteur, voilà, pour RCF. Et vous êtes libanais. Alors moi, je voulais un petit peu m'adresser à vous. Pour savoir, vous, quand vous avez découvert ce conte, quelle a été votre première réaction à la première lecture ?
Ben en fait, ça m'a bouleversé, parce que le fait de lire des contes, de raconter des contes, c'est aussi une tradition libanaise. Puis j'ai été bouleversé par cet homme qui est Abou Antoun, un peu grincheux, comme disait Sharif, et en même temps qui nous représente tous, finalement.
Alors, vous, l'explosion, vous l'avez vécu, vous étiez à Paris. Comment vous avez vécu ça depuis Paris ?
Ben, quelque part, c'était une explosion de plus, une explosion de trop, comme dans une forme de sidération. J'étais pas sur place, mais j'ai beaucoup de famille sur place et des amis sur place, et voir ça se reproduire à nouveau, c'était assez monstrueux.
Donc l'explosion, il en est question donc dans ce conte. On l'évoquait il y a quelques minutes. Sharif, vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Comment vous l'avez vécu ?
Bah, comme je l'ai vécu, bah, comme dit Wadi, d'abord les premiers moments qui étaient l'incompréhension, on comprenait pas ce qui se produisait. Et ensuite, c'était le mot que nous employons spontanément, qui vient comme ça, il vient à la bouche de Wadi, il me vient, c'est la sidération. C'est-à-dire que c'était tellement invraisemblable ce qui s'était produit. Et donc, la sidération, le sentiment d'impuissance absolue, sauf que évidemment, il s'est transformé très rapidement dès le lendemain, le surlendemain, on va dire, on a besoin d'agir, cette espèce de sentiment de besoin de faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, à ne rien faire devant cette chose-là. Et donc tout le monde s'est précipité dans les rues pour aider, pour déblayer, pour. Et donc ça a été une semaine de travail incroyable pour essayer de faire quelque chose en fait. On a déblayé les routes, on a sorti des gens des décombres. On a... Et après ça, ce qui s'est produit, c'est qu'on s'est retrouvé effectivement face à l'innommable. Et de nouveau dans l'impuissance, parce que aucune enquête ne s'est faite, la classe politique n'a pas bougé. Et là, c'était la rage impuissante. Donc c'est un peu trois étapes comme ça face à cet événement.
Le conte s'appelle Vers soufflé. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ce, évidemment l'art technique du vers soufflé, mais c'est aussi ce souffle de l'explosion, ce souffle qui a tout soufflé dans les vies de tous ces Libanais à Beyrouth. Qu'est-ce qui s'est brisé en vous à ce moment-là ? Dans le conte, on parle de verre soufflé, mais on parle de verre brisé, on parle d'un verre aussi qui était admiré, d'un verre qui a été rangé, caché presque. Qu'est-ce qui s'est brisé en vous et qu'est-ce qui s'est brisé chez les Libanais ?
Ce qui s'est brisé, c'est la foi encore dans un avenir possible pour ce pays, je crois. Sur le moment et dans les mois qui ont suivi, alors peut-être maintenant on recommence parce que le besoin de vie, l'obligation de continuer à vivre impose l'optimisme et la nécessité de recommencer, de se mettre debout, de continuer. Mais sur le moment et les quelques mois qui ont suivi, ce qui s'est brisé, c'est la possibilité qu'on puisse encore recommencer. Parce que comme l'a dit Odile, c'était vraiment la chose de trop. Et ce qui s'est brisé, c'est ça, c'était élan permanent, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les difficultés qu'on a à construire ce pays avec devant se battre en permanence contre une classe politique, une mafia qui est là, qui empêche toutes sortes de travail possible. Les gens ont travaillé, les gens ont construit, les artistes, les créateurs, les designers, enfin, les gens ont énormément créé dans ce pays. Et soudain, ce que les gens ne savent pas nécessairement, les auditeurs peut-être de la radio ne le savent pas, c'est que ce qui a été détruit essentiellement à Beyrouth, c'était les quartiers de la création, les quartiers des artistes, des artisans, des designers, des ateliers de peintres et galeries d'art, et aussi de la vie nocturne, qui est le symbole du dynamisme de Beyrouth. Ça a été ravagé en 5 secondes, comme s'il fallait absolument que tout ce qui était encore vivant et qui pouvait encore tenir tête à l'absurdité de la classe politique soit abattu, et il a été abattu. Et donc, c'est ça qui s'est brisé. Maintenant, depuis, on a recommencé. Parce que pendant un moment donné, Les gens n'en voulaient plus, ne voulaient plus entendre parler de continuer, de se redresser. Il y a un mot qui est devenu une espèce de bête noire des Libanais, c'est le mot résilience. On ne veut plus entendre parler de résilience, on ne se relèvera plus. C'est terminé, on s'en va. Beaucoup de gens ont décidé de partir. Les gens qui sont partis, il y a des gens qui ont préparé le départ. Et progressivement, on s'est aperçu que, bon, on ne peut pas partir comme ça, n'importe comment. Il faut continuer. Et une fois de plus, on recommence. Mais c'est beaucoup plus difficile.
Wadi, c'est aussi l'impression et le vécu peut-être que vous avez vu autour de vous.
Oui, et si vous m'autorisez, Faustine, je suis très touché par ce que dit Sharif, parce que cet appel à l'optimisme permanent, cette capacité à aller dans l'action tout de suite et à faire quelque chose avec le réel qui quelquefois s'effondre, ce que dit en fait Sharif est exactement l'âme libanaise, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui m'habite profondément. Pourtant, j'ai quitté ce pays il y a quelques années, mais c'est quelque chose qui fait partie, quelque part, de l'âme libanaise. Et c'est quelque chose qui m'émeut toujours à entendre. Voilà, c'était une explosion énorme. Et je peux imaginer, effectivement, pour tous les Libanais présents sur place, non seulement les blessures, mais la blessure aussi intérieure, et qui vient bouleverser un ordre qu'on essaye d'établir régulièrement en fait, et qui finit quand même par s'effondrer une fois de plus. Donc voilà, le cœur a saigné ce jour-là.
Alors avec le personnage de Abou Antoun, on suit un personnage désabusé, on sent cette âme libanaise, hein, et on voit bien qu'il est vraiment nourri de la réalité du moment. Et puis en même temps, donc, il a quand même le courage de vivre son rêve. Son rêve d'abord se retrouve brisé, mais il va y avoir un sursaut. C'est ça aussi peut-être le rêve du peuple libanais qui a un sursaut quand même, malgré tout en fait. Malgré tout, la vie reprend. Wadi peut-être ?
C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on entend d'ailleurs dans la voix de Sharif. C'est exactement ça qu'on voit dans le conte. Je trouve que cette capacité à mettre à contribution l'imaginaire pour nous rappeler que peut-être que cet art du vers soufflé comme étant un art, c'est quelque chose qui ne se détruit pas en fait, qui reste là, qui reste présent en nous et qui ne peut pas être détruit. C'est Giacometti qui disait, je crois, qu'une œuvre d'art, même quand on l'est cassée en deux, c'est deux œuvres d'art en fait. Mais il y a peut-être quelque chose dans notre âme à tous, dans cette âme du monde, qui fait que l'homme est capable, quand même, de revenir et de conserver intacte une flamme qui lui permet de se redresser.
Sharif Majdahani.
Oui, alors le personnage, en fait, le personnage, bon, dans tout, je l'ai construit comme un personnage un peu désagréable malgré tout, parce que je voulais être un peu conforme à l'idée du conte de Dickens, mais évidemment, oui. ce côté désagréable qui se transforme précisément. Et le personnage s'humanise, alors, il est désagréable, il est surtout, il ne veut pas de l'aide des gens, c'est finalement, il n'est pas dans la communion, il n'est pas dans la solidarité, même si c'est lui qui paye le prix. Et il s'humanise, en fait, il va s'humaniser, et c'est là où il s'humanise qu'il découvre qu'en fait, ce qu'il pensait détruit ne l'était pas, et qu'il pourrait recommencer. Et tout cela se fait au contact des enfants. Alors évidemment, les enfants, c'est très important dans le conte de Dickens, c'est très important aussi à Noël, hein. Il y a quelque chose qui est comme ça de l'âme enfantine qui revient en chacun et qui nous permet de recommencer dans une sorte de nouvelle de pureté renouvelée, si vous voulez. Et donc, mais effectivement, alors quand vous dites un itinéraire très compliqué qui mène vers la Renaissance, je m'aperçois qu'involontairement, j'ai raconté l'histoire d'un mec qui part sur la route et qui a beaucoup de difficultés, qui tombe dans un trou, qui pense qu'il ne s'en sortira plus et qui s'en sort. Et c'est incroyablement notre cas. J'ai dessiné involontairement par le récit, comme ça en détail, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Au moment où je l'ai écrit, je pense que j'étais pas encore aussi sûr que nous étions prêts à recommencer, donc à sortir de l'ornière. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des prémices d'un désir de sortir, effectivement, de recommencer.
Marie-Christine Vidal, en entendant tout ça, à la fois cette lecture libanaise, cette lecture du conte, vous, qu'est-ce que ce conte aussi vous inspire ? Qu'est-ce que vous retenez ? Vous repartez avec quoi ?
Moi, je trouve que, pour un essai un peu, je me dis qu'il y a quelque part une sorte d'inspiration incroyable, quoi, parce que d'abord cette inspiration qui fait que je me suis dit tiens, on va demander à un auteur libanais, voilà, rien ne disait qu'il y aurait une actualité brûlante, etc. Effectivement, en entendant White Shwery et Sharif maintenant, je me dis c'est incroyable que c'est un peu une histoire effectivement du peuple libanais, quoi, et que c'est un peu au-delà de ce que j'aurais pu espérer pour un conte. Donc je me dis que voilà, il y a eu un petit coup de pouce quelque part. Alors, petite anecdote qui va tout à fait dans ce sens de l'esprit inattendu de Noël. Zaven Najjar, l'illustrateur, très touché, lui, quand on lui a dit que le conte serait de Sharif Majdalani, parce que lui, en tant que proche du Liban, connaissait Sharif Majdalani mieux que moi. Donc très honoré, nous avait-il dit, même le mot est celui-ci. Il se trouve qu'il a été papa pour la première fois le 4 août. Donc vous voyez, il y a un
le
peu
jour
des
de l'explosion.
Voilà, le jour de l'explosion. Donc ce conte qui devait être un conte de Noël pour moi, j'imaginais un conte un peu oriental, peut-être qu'il se serait passé dans une époque révolue, dans un Liban d'autrefois, etc. Et que ce conte soit un conte d'aujourd'hui qui dise un peu ce qu'est le Liban avec tous ces petits signes autour, je trouve ça complètement incroyable, quoi. Je me dis que c'est vraiment un très beau conte et une très belle histoire. Et à tous les sens du terme.
Et alors, Sharif, il y a quand même, parce qu'un conte de Noël, on est souvent aussi, il y a les contes à toutes les époques, mais il y a aussi les contes qui reprennent l'histoire de la nativité. On voit en petite touche, quand même, cette évocation des bergers, cette évocation du nouveau-né. Évidemment, c'est fait exprès.
Ah ben bien sûr, oui. Et pas seulement, il y a aussi les étoiles qui clignotent, bon, qui font. Parce que en fait, Noël, c'est aussi dans l'imaginaire des images, plus qu'un vrai récit. Il y a évidemment le récit de la naissance de l'enfant, mais il y a des images qui viennent spontanément, indépendamment du fil du récit évangélique, si vous voulez. Il y a l'idée des bergers, il y a l'âne, le bœuf, et il y a aussi les étoiles et les rois mages. Ça fait partie, bon, ça n'existe que dans un seul évangile, mais ça a imprégné la culture et l'imaginaire chrétien, et les rois mages sont associés à l'idée de l'étoile. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes livres, il y a beaucoup de ciel étoilé dans mes livres, mais là, il fallait absolument que les étoiles clignotent et fascinent. C'est un petit peu aussi une allusion aux rois mages qui arriveront un peu plus tard dans le récit, mais donc tout cela fait allusion, sont des clins d'œil aux images qu'on lit traditionnellement à Noël.
Quand on vit des périodes, voilà, comme Noël, mais des périodes aussi de difficultés, comme on vit tous aujourd'hui, avec la crise sanitaire, avec voilà l'explosion à Beyrouth, avec les difficultés que chacun peut avoir aussi dans sa vie. Sur quoi, quelle est vous en tout cas, quelle est votre espérance, quel est votre moteur, quelle est votre foi, j'allais dire, pour repartir?
C'est très difficile parce que jusqu'à peut-être il y a un mois, quand on me disait est-ce que vous avez encore de l'espoir, je disais non, aussi sec comme ça. C'est très difficile. On a vécu quelque chose de vraiment épouvantable qui vient s'ajouter à toute une série d'autres crises en plus. C'est ça qui fait que c'était encore plus désespérant. Mais là, j'ai l'impression que, j'ai aucune impression véritable, mais j'ai comme ça l'intuition, le vague sentiment lointain que on pourra recommencer. Ce qu'il faut, c'est un travail lent de sape de ce qui tente encore de continuer à nous gouverner pour renverser cela. Et à partir de ce moment-là, je pense que le peuple libanais recommencera et pourra reconstruire un pays à peu près viable. Et donc, à un moment donné, on pensait qu'on n'y arriverait jamais. Mais là, je pense qu'avec le travail de sape lent, quotidien, les gens qui reconstruisent, les gens qui, quand même, au jour le jour, montent des initiatives, essaient de créer, il y a un mouvement de solidarité permanent, comme ça, qui joue en sourdine. Tout cela, à un moment donné, explosera la figure des bandits qui nous gouvernent. Je pense que c'est sur ça, je pense, que l'on construit tous l'espérance.
Je me tourne vers Wadi, parce que vous êtes coach. Vous avez l'habitude peut-être d'accompagner des gens qui peuvent être au fond du trou, je ne sais pas, qui sont voilà, où c'est difficile. Comment vous les aidez? Sur quel levier vous les aidez à s'appuyer pour rebondir, pour reprendre goût à la vie?
C'est une question difficile. Alors, je ne sais pas si les gens sont au fond du trou, mais en tout cas, il nous arrive à tous en fait de mettre un genou à terre. Et si j'ai face à moi quelqu'un qui est en difficulté, ça me parle de ma propre difficulté à me relever quelquefois. Donc, je me sens pas différent de lui, et j'essaie de voir avec lui, en cheminant avec lui, ce qu'il peut puiser dans sa puissance intérieure, qui est magnifiquement dite par Sharif dans sa façon de conter. Comment est-ce qu'on peut retrouver dans cette puissance de l'imaginaire, des ressources, du passé, de notre puissance, revenir et se relever Donc il n'y a pas de boîte magique, il n'y a pas de bouton magique sur lequel appuyer. Il y a peut-être quelque chose autour de l'espérance. Il y a peut-être quelque chose autour du faire lien ou également. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, finalement, on est de plus en plus coupés les uns des autres. C'est un mouvement qui était déjà présent dans la société, mais qui devient de plus en plus fort et qui atteint son paroxysme avec cette distanciation. Peut-être que l'espérance, c'est aussi qu'on recommence à faire lien pour recommencer à agir au plus près du réel. Voilà.
Marie-Christine Vidal, on a tous été marqués par les images de l'explosion, mais aussi par ces images de solidarité, effectivement, et cet aspect de ce lien qu'on a vu des Libanais qui s'entraident, et aussi beaucoup d'entraide qui sont venues de l'extérieur. Vous, votre regard de journaliste sur tout ça, qu'est-ce que vous dites si vous aviez, je ne sais pas, un éditorial à écrire là-dessus? Oui.
Bah, en fait, il se trouve que j'ai pas d'éditorial à écrire là-dessus. Mmh. Et puis nous, on est dans un temps tel qu'on a un décalage. Donc, j'ai interviewé, en fait, Léa Salamé, qui sera la prochaine conversation du numéro de janvier de Panorama. Et c'est vrai que je retrouve dans ce qu'elle m'a dit, sa façon de parler, je retrouve les mêmes choses chez Sharif et chez Wadi. C'est-à-dire... cet espoir toujours sous-jacent, quoi. L'âme libanaise qui a été touchée, qui a depuis des années, ce petit pays qui a une spécificité très très forte, mais qui s'en sort toujours en fin de compte, quoi. C'est un peu comme on dit, à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent, bah là, et à la fin les Libanais ils s'en sortent toujours, quoi. J'espère que c'est une parole prophétique, mais je sens déjà quelques mois après l'explosion, je sens effectivement dans les propos de Sharif quelque chose qui laisse espérer, quoi, comme je le sentais chez Léa Salamé, comme je le sens chez Wadi.
Je reviens un petit peu, parce que vous parlez tous un peu de cette espérance, et j'ai l'impression que c'est aussi un peu la fonction du conte. Vous parliez, Marie-Christine Vidal, au début de notre échange, de l'esprit d'émerveillement. Est-ce que c'est aussi ça, en fait, cette expérience du conte? Alors, je vais m'adresser aussi peut-être à Wadi, sur le conte, alors le conte de Noël ou tout autre conte. Il y a à la base quelque chose qui nous invite, qui nous invite peut-être à l'espérance.
Oui, et j'aime bien quand vous parlez effectivement d'émerveillement. Il y a quelque chose d'un enchantement du réel. Ça me fait penser à La vie est belle, par exemple, le film La vie est belle. C'est-à-dire qu'on peut regarder une réalité quelquefois même atroce, et à travers des mots, à travers l'imaginaire, à travers notre façon effectivement de la regarder à nouveau. Peut-être que là aussi on peut trouver quelque chose d'une ressource pour recommencer, rebâtir et voilà, vivre.
Sharif, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire d'autres contes?
Peut-être pas, parce qu'en fait la demande est venue à un moment comme ça, où j'étais surpris, et puis les événements ont fait que ça s'est cristallisé. J'étais très heureux de l'écrire, et je pensais effectivement à la question d'écrire quelque chose qui puisse donner aide à s'émerveiller. C'est pas très facile, je pense pas qu'on puisse rééditer ça très facilement. Alors peut-être dans longtemps j'aurai une autre idée de quelque chose d'un peu émerveillant, mais c'est vraiment comme l'émerveillement, il est toujours très fugace, comme ça il retombe très vite. C'est difficile de reproduire cela. Bon, je ne pense pas, mais je suis très heureux de ce conte. J'ai été très heureux de l'entendre lu. D'ailleurs, je le redis à la. Et je l'ai relu avec plaisir. Ma femme a envie de le raconter en arabe libanais à des amis à elle.
Il y a tout
un jeu qui suit autour de ce conte. Là, oui, entre nous, en famille. Donc, j'étais très heureux. Je pense que pour la question du conte, je vais en rester là, à moins que j'ai une autre demande, parce que je pense que c'est pas évident d'avoir comme ça des élancements d'émerveillement aussi facilement, même si le conte est quand même un peu dur à un moment donné, mais à la fin il se termine sur l'émerveillement, et ça c'est pas toujours facile à reproduire à mon avis.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Peut-être une dernière question à chacun de vous, puisque on va vivre tous les fêtes de fin d'année, et qu'il est souvent coutume de se souhaiter les bons vœux pour l'année 2021 qui arrive. Quel serait votre souhait à chacun? Compliqué comme question. Alors, Marie-Christine Vidal.
Alors moi, je reprendrai, alors pour le coup, vous parliez d'éditorial tout à l'heure, mais l'éditorial de mon numéro de janvier, autour de la douceur. Je pense qu'on a tous besoin de douceur. L'année a été violente. Alors, effectivement, très violente pour des gens qui ont, comme au Liban, dans leur chair, quoi. Après, psychologiquement, je pense que la crise sanitaire l'a été aussi pour le monde entier. Donc voilà, je souhaiterais simplement de la douceur pour tous.
Wadi Chouari.
C'est extrêmement difficile, hein. La première chose qui m'est venue quand vous avez évoqué ça, c'est vraiment vivre, exister, jouir de chaque moment dans la vie et essayer de construire l'avenir.
Alors, Sharif Majdalani.
Moi, ce dont je rêve, c'est qu'on retrouve un temps où on puisse se serrer la main, se prendre dans les bras et surtout arrêter de regarder l'autre comme une perpétuelle menace virale, et qu'on recommence à se regarder tous comme des gens normaux et non plus comme des dangers les uns pour les autres.
Il y a plus de confinement au Liban. Là aujourd'hui, vous êtes
non, il y a plus de confinement, mais les cas remontent vertigineusement, donc on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais en même temps, l'État est dans une telle déliquescence qu'on sait que même les mesures qui sont prises sont pas toujours bien prises et bien respectées. Non, ça c'est pas terrible. Même de ce point de vue, c'est pas formidable non plus.
Donc on souhaite que 2021 soit plus doux, comme dit Marie-Christine Vidal. Merci beaucoup à chacun d'avoir fait une petite relecture de ce conte. Donc je redis que Sharif Majdalani donc est l'auteur aussi de Beyrouth 2020, journal d'un effondrement, publié chez Actes Sud, prix spécial du jury Femina 2020. Donc ça peut être peut-être encore une idée de cadeau de Noël. Et puis vous pouvez lire donc ce conte de Noël, Vers soufflé, dans Panorama, le magazine que vous pouvez donc retrouver en ligne et évidemment bien sûr vous abonner. Merci à tous, retrouvez cette émission en podcast sur rcf.fr et merci à Pierre-Henri qui a réalisé cette émission.